Radio Okapi. Le journal Belinda Bosuma.
À la une, cette bonne nouvelle pour les habitants de Goma et de Niragongo au Nord Kivu. Ils auront bientôt accès à l'eau potable en quantité suffisante. Une œuvre du Comité international de la Croix-Rouge CICR Nord Kivu. Le coût du projet, 40 millions de dollars. Le nombre des malades de diabète augmente chaque année. Les autorités sanitaires du Sud Kivu se disent inquiètes. Elles invitent ainsi les diabétiques à se faire vacciner contre le Covid-19 car ils sont les plus exposés, indique le coordonnateur provincial du programme de lutte contre les maladies chroniques non transmissibles au Sud Kivu. Et puis, il s'ouvre aujourd'hui à Kinshasa un forum sous le thème « Diaspora congolaise, acteurs de développement et de lutte contre la pauvreté en RDC », assise organisée par l'OIM et le gouvernement congolais. Pour en parler, nous recevons David Moudilo, membre de l'équipe de coordination de ce forum. Madame, Messieurs, bonjour. Plus de 300 000 habitants de l'ouest de la ville de Goma et d'une partie de Niragongo auront bientôt accès à l'eau potable en quantité suffisante. Cela grâce à un projet de 5 ans initié par le Comité international de la Croix-Rouge, CICR. Le protocole d'accord a été signé hier entre le gouverneur du Nord Kivu et le chef des programmes du CICR Nord Kivu. Ce dernier indique que ce projet d'un budget de 40 millions de dollars sera exécuté en plusieurs étapes. Roman Machover le dit au micro de Berdraden Nyangi.
La première partie du budget, qui va être d'environ 10 millions, va permettre de faire les études parce qu'elle cherche aussi à trouver des meilleures sources d'approvisionnement d'eau qui donc du coup pourraient faire descendre les coûts. Et ensuite, on estime de manière globale à 30 millions la deuxième partie du projet. Après, si c'est un peu plus ou si c'est un peu moins, on ajustera en fonction des besoins. Ce qui est important là, c'est vraiment les besoins des populations et le fait qu'on soit capable de répondre à cette demande. En fait, les études ont commencé, donc les études géologiques et les études avec les populations, ainsi que le lancement des appels d'offres, notamment pour le projet directeur. Ce qui est important aussi, c'est que justement parce qu'on sait que les populations ont besoin d'eau tout de suite, on a aussi des travaux d'urgence qui sont faits pour pouvoir répondre à une partie de la demande dès maintenant. Ça a été le cas notamment lors de l'éruption volcanique. Mais par contre, les grandes infrastructures vont prendre un peu plus de temps, 3-4 ans, et c'est ça qui va s'étaler sur le temps.
Les quartiers bénéficiaires sont entre autres Kieshero, Ndosho, Mugunga et Lac Vert dans l'ouest de la ville de Goma, mais aussi les groupements de Mouja et Rusayu dans le territoire de Niragongo qui, selon le CICR, connaissent une croissance démographique à la suite notamment des conflits armés. Nord Kivu toujours, soulagement des habitants des quartiers Boikene et Kasabignolé de la commune Rwenzori à Beniville. Un nouveau pont relie en effet ces deux entités, facilitant ainsi les échanges et la circulation. La cérémonie de remise de cet ouvrage a eu lieu hier. Pour le chef intérimaire du bureau de la MONUSCO, Beni Lubero, la construction de ce pont rentre dans le cadre de la mission de stabilisation et de protection des civils au cœur du mandat de la MONUSCO. Guylaine Kassassia.
Ils étaient nombreux, des femmes et des hommes, venus participer à ces cérémonies d'inauguration. La construction de ces ponts entre dans le cadre de la mission de stabilisation, fait savoir Abdourahmane Ganda, chef intérimaire du bureau de la MONUSCO Beni Lubero.
Cet ouvrage a pour objectif la stabilisation de façon générale et la protection des civils en particulier, parce qu'il nous permet de patrouiller facilement, amener la protection aux côtés de la population. La stabilisation aussi, surtout en termes de facilitation des activités économiques et de mouvement de la population.
Pour sa part, le maire de Beni estime que ces ponts vont faciliter le patrouille de forces de l'ordre dans cette partie de la ville. Le commissaire principal supérieur Narcisse Moutiba Kachali.
Ces ponts nous donnent la force d'intervenir à temps. Quand il y avait des problèmes de l'autre quartier, il fallait contourner. Pour nous, sur le plan sécuritaire, donc c'est bénéfique. Et nous disons merci à la MONUSCO.
Les nouveaux ponts rejouent également les habitants des deux quartiers.
C'était le besoin primordial parmi nos besoins parce que ça fait plusieurs fois qu'on démarre ici. C'est avec des ponts locaux, mais pour le moment, on a réussi à faire les ponts modernes de cette manière.
Ces travaux de construction qui ont débuté en octobre 2020 ont été réalisés avec le financement de la MONUSCO pour un montant d'un peu moins de 50 000 dollars américains. Beni, Gulen Kassassia, Radio Kapi.
Ici à Kinshasa, poursuite hier du cadre des concertations entre le Sénat et les assemblées provinciales sous la présidence du premier vice-président Edi Mundela. Au deuxième jour de ces assises de l'hôtel Béatrice, les présidents des assemblées provinciales ont présenté présenter à tour de rôle l'état des lieux de leur province ainsi que les besoins de leurs institutions. Dans l'ensemble, les problèmes que connaissent les organes délibérants sont d'ordre logistique, le manque d'infrastructures et du budget conséquent pour le fonctionnement. Pour le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, ce forum doit se tenir chaque année pour favoriser le développement réel des provinces. Godim Poy est au micro de Michel Kifindangoy.
Je crois que par ce cadre, les vrais problèmes de nos populations seront connus des décideurs et cela va contribuer non seulement au développement rapide de notre pays, mais vous verrez que si les questions soulevées dans le cadre de ces dialogues rencontrent des réponses, cela aura de l'incidence sur la gouvernance locale. C'est pour dire que c'est ce cadre qui manquait pour faire entendre la voix de la population, c'est que ça ne soit pas seulement une première, mais qu'il y ait encore d'autres rencontres pour travailler effectivement sur le développement à la base. Comme vous le savez, la ville de Kinshasa est financée par le budget national à la hauteur d'environ 70%. Et chaque fois que cette quotité n'est pas respectée, ça paralyse tous les engagements pris sur le plan local.
Je vous le disais en titre, le nombre des personnes atteintes de diabète augmente chaque année et cela inquiète fortement les autorités sanitaires de la province du Sud Kivu. Voilà pourquoi les diabétiques sont priés de se faire vacciner contre le COVID-19 car ils sont les plus exposés à ce virus. C'est le message du coordonnateur provincial du programme de lutte contre les maladies chroniques non transmissibles au Sud Kivu. C'était lors d'une matinée d'information et de sensibilisation à l'occasion de la journée mondiale du diabète célébrée le 14 novembre. Cynthia Bachizi, reportage.
Prévenir plutôt que guérir, c'est la stratégie adoptée par les autorités sanitaires provinciales. Primo, insister sur les dépistages volontaires au diabète. Ensuite, vacciner les diabétiques contre la COVID-19. Docteur Landry Mugisho.
Nous sommes déjà à 6854 cas rapportés entre janvier et juin 2021. Nous sommes en train vraiment de sensibiliser les gens à se faire dépister d'abord au diabète, après qu'ils aient connu leur état par rapport à la glycémie. Et on leur demande d'aller se faire vacciner contre le Covid parce que, tel que les statistiques le démontrent chez nous, à 80% les personnes qui sont décédées de Covid, il y avait les diabétiques et les hypertendus.
Le diabète est une élévation permanente du taux de sucre dans le sang. L'insuline permet de baisser cela. Mais ce médicament est hors de prix pour beaucoup de malades. Marie Migani, coordonnatrice de l'ONG CAPSA, veut un coup de pouce des autorités budgétaires provinciales.
C'est déjà 100 ans de découverte de l'insuline, mais il y a d'autres malades qui n'ont pas accès à cette insuline. L'action que nous demandons aujourd'hui au niveau des législateurs, donc nos députés, qu'ils doivent élaborer des édits qui tiennent compte des maladies non transmissibles, notamment les diabètes et l'hypertension.
Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Du côté du Kwilu, plus de 300 cas de diabète ont été enregistrés depuis le début de cette année à l'hôpital général de référence de Bandundu. Ces statistiques ont été rendues publiques lundi par le club des médecins amis des diabétiques de Bandundu. C'était toujours à l'occasion de la journée mondiale de diabète. Irène Mboma, les détails.
Au total, 346 cas de diabète, dont 220 femmes et 126 hommes, ont été enregistrés au cours de l'année en cours et suivis à l'hôpital général de référence de Bandundu. Le docteur Alfred Mangoni, président du club des médecins amis des diabétiques qui le dit, indique qu'en dehors de ces chiffres, plusieurs autres diabétiques s'ignorent dans la ville et arrivent à l'hôpital dans des stades de complications très avancés. Tout en parlant des facteurs qui favorisent le diabète, docteur Mangoni appelle la population au respect de quelques mesures d'hygiène pour l'éviter.
À partir de 40 ans, nous avons plus de diabète de type 2 et moins de 40 ans, il y a du diabète type 1 qu'il faudra contrôler ce que vous consommez. Nous avons aussi l'obésité et le sédentarisme qui sont aussi des facteurs favorisant du diabète sucré du type 2. Le sédentarisme, nous voulons parler par rapport à ceux qui ne veulent pas faire de gymnastique et puis des mouvements, ceux qui restent souvent assis dans des bureaux. Nous recommandons à la population de la ville de Bandundu de passer toujours faire les dépistages. Surtout à partir de 40 ans, il est recommandé à toute personne de faire la glycémie chaque 3 mois.
Il s'est dénoté que cette sensibilisation a été faite à l'occasion de la journée mondiale de lutte et de prévention contre le diabète célébrée le 14 novembre de chaque année. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Dans le territoire de Beni, l'unique centre de santé de Kisunga a été incendié lors de la dernière attaque des présumés rebelles ADF contre cette localité de la chefferie de Bachou en Kwartongo Kamala. Premier rapporteur de la la société civile dans la chefferie de Bachou. Au total, 8000 personnes ne savent plus se faire soigner. Ils plaident pour une intervention urgente. Tongo Kamala, au téléphone de Marc Marofimbo.
C'est déjà un grand problème qui s'observe dans la zone de Kisunga. Au moins 8000 personnes qui n'ont plus où se faire soigner. Ce qui s'est passé hier, c'était vraiment compliqué. À partir de cette même nuit, pendant que l'attaque s'est déroulée, vous voyez, au moins 3 femmes ont été obligées de donner naissance à Prousse. Elles n'avaient plus où donner naissance comme leur maternité était déjà incendiée. C'est vraiment compliqué. Mais ce que nous déplorons, c'est de se rendre compte que la localité de Kisunga ne dispose d'aucun dispositif sécuritaire. Nous n'avons pas ni militaire, ni police. Donc, les habitants sont là, ils sont là seuls. Donc, ils sont exposés. Peut-être ça va interpeller les autorités militaires pour qu'elles puissent voir comment faire et peut-être pour essayer d'implanter une position militaire pour essayer de protéger la population.
Retour au Sud Kivu. On assiste à un cycle de représailles à Mikenge dans le secteur d'Itombo et territoire de Mwenga. Après l'attaque qui a fait 8 morts parmi les civils à Mikenge 1, une nouvelle attaque a été signalée hier au camp des déplacés qui ont fui leur site pour se réfugier devant la base opérationnelle de la MONUSCO. L'attaque de leur camp par des présumés Maïmaï n'a pas causé des morts, mais 5 civils restent portés disparus. Fiston Ngoma.
Une coalition Maïmaï de Kipupo et de Lumania a attaqué les camps des déplacés de Mikenge la nuit du lundi à ce mardi. Selon des sources locales, les assaillants ont tiré dans toutes les directions et incendié 19 maisons ainsi qu'un bâtiment d'église. Aucun décès ni blessure n'a été signalé, mais 5 personnes, dont 3 femmes et 2 hommes, sont toujours portées disparues. La tension reste très vive dans la zone. Les civils et déplacés Banyamulenge amassés devant la base opérationnelle de la MONUSCO disent craindre des représailles de la part des miliciens Maïmaï à la suite du meurtre des civils des communautés Babembe, Banindu, Bafuliru par des combattants Turwaneo et alliés. La nuit du dimanche à lundi, l'attaque des combattants Turwaneo avait fait 8 morts, dont une femme et 7 enfants, 10 maisons incendiées ainsi que des déplacements de plusieurs ménages vers la brousse. Le week-end dernier, avant l'attaque de Mikenge par les Turwaneo, des miliciens Maïmaï avaient tenté en vain de piller les vaches au village Tanzovu, groupement des Bijombo toujours dans les hauts plateaux. Ils s'étaient heurtés à une résistance rigoureuse de la part des éleveurs de bétail armés. 2 éleveurs de vaches avaient été tués, parmi lesquels Sengi Yumva, chef du village de Tchanzovu. Douvira Fiston Omamayaba, la radio Okapi.
À présent, la suite de notre série de reportages sur le réchauffement de la coopération entre la RDC et ses voisins de l'Est. Si la région des Grands Lacs semble résolument engagée dans la marche vers la stabilité, il faut dire que les États de la région sortent de plusieurs décennies des tensions politiques et sécuritaires. Dans ce reportage de Gisèle Cage, rendu par Bernard Nyangui, Radio Kapi revient sur les moments clés de la crise qui a secoué cette partie du continent africain.
La crise dans la région des Grands Lacs a connu son paroxysme en 1994 avec le génocide des Tutsis au Rwanda. Dans la foulée, des millions de Rwandais, parmi lesquels les génocidaires, traversent la frontière et se réfugient en RDC fuyant l'avancée du Front patriotique rwandais. En 1996, le Rwanda et l'Ouganda apportent leur appui à la rébellion de Laurent Désiré Kabila, chef de l'AFDL, pour renverser le régime de Mobutu. Après 8 mois de guerre, le 17 mai 1997, Laurent Désiré Kabila atteint Kinshasa et devient le nouveau président de la RDC. Une année après, ce dernier se sépare de ses alliés à la suite des tensions internes. Peu après sa prise du pouvoir, Laurent Désiré Kabila est confronté à une rébellion du RCD soutenue par ses anciens amis du Rwanda devenus ses ennemis jurés. La guerre éclate à nouveau en RDC et plusieurs pays y sont militairement impliqués, dont l'Angola, la Namibie et le Zimbabwe, qui apportent leur soutien à Kabila. Plus tard, d'autres rébellions, soutenues toujours par les pays voisins, verront le jour. Le Congrès national pour la défense du peuple, CNDP, ainsi que le mouvement du 23 mars, M23. Depuis la passation pacifique du pouvoir en RDC, le président Félix Tshisekedi a entamé une ouverture politique et tendu la main à ses pairs. L'Ouganda et le Rwanda se sont rapprochés et ont signé le 21 août 2019 à Luanda un mémorandum d'accord destiné à apaiser les tensions. Le rapport de l'ONU du 1er octobre 2019 affirme que l'Angola, l'Ouganda, la RDC et le Rwanda ont renouvelé leur engagement en faveur de la coopération et de l'intégration régionale.
Actualité internationale. Nous sommes d'abord au Soudan. Les comités de résistance soudanais appellent à une nouvelle mobilisation aujourd'hui contre le coup d'État du 25 octobre. Depuis, au moins 23 Soudanais ont été tués au cours de plusieurs épisodes de répression. Dans les hôpitaux de Khartoum, plusieurs médecins s'inquiètent après avoir constaté des blessures inhabituelles et particulièrement sévères qui semblent avoir été causées par des balles explosives interdites au regard du droit international. Au Mali, Dr Keb est libre. L'artiste malien, chanteur et rappeur avait été enlevé le 29 juillet dernier près de Tombouctou avec deux membres de son équipe alors qu'il était en tournée dans la région. L'un d'eux avait déjà été libéré. Les deux autres, dont Amadou Kébé alias Dr Keb, ont finalement pu regagner Tombouctou lundi 15 novembre en fin de journée. Puis Bamako hier, ils y ont été reçus par les autorités de transition. Et en Haïti, notez que plus de 4 mois après l'assassinat du président Jovenel Moïse, la justice haïtienne continue les auditions des témoins et des présumés membres du commando armé. Les commanditaires et mobiles de ce crime sont encore inconnus, mais le dossier avance.
L'invité.
Diaspora congolaise, acteurs de développement et de lutte contre la pauvreté en RDC, c'est le thème du forum des 2 jours qui s'ouvre aujourd'hui à Kinshasa, forum organisé par l'Organisation internationale de la migration, OIM, et le gouvernement congolais. Pour en parler, nous recevons David Mudilo, membre de l'équipe de coordination de ce forum. Il s'entretient avec Alain Rongmouchinge.
David Mudilo, bonjour.
Bonjour Alain.
Pourquoi vous organisez ce forum maintenant? Quels sont vos objectifs et vos attentes?
Ce forum découle d'un travail que nous avons commencé depuis 2 ans au sein de la cellule lutte contre la pauvreté en partenariat avec l'Organisation internationale des migrations. Nous avons commencé à discuter sur les mécanismes pour accompagner les migrants à participer à la reconstruction nationale mais à la lutte contre la pauvreté. Et l'année 2020, nous n'avons pas pu avancer avec le travail que nous avions à cause du Covid. Donc, en début d'année 2021, nous avons relancé les discussions, nous avons finalisé les documents de travail. C'est ainsi qu'on a pu organiser ce forum maintenant. Un autre objectif, c'est de discuter du cadre institutionnel à mettre en place pour favoriser le retour et l'investissement de la diaspora dans le développement socio-économique de la RDC. Dans le cadre institutionnel, nous devons comprendre tous les mécanismes que nous essayons de mettre en place au niveau de l'État pour encourager cet engagement de la diaspora. Il est aussi question de réfléchir sur comment canaliser les efforts de la diaspora vers des investissements plus productifs que juste des investissements, en fait c'est même des investissements, mais des transferts d'argent pour répondre à des problèmes sociaux ou bien des problèmes de consommation.
Cela sera certainement abordé au cours de ce forum. À combien estimez-vous les Congolais de la diaspora et quel est leur rapport en termes de soutien à leur famille et en termes de projets d'investissement au pays?
Les transferts de la diaspora à l'année 2019 ont atteint autour de 2 milliards de dollars et durant l'année 2020 ont atteint autour de 1,9 milliard de dollars. Donc ça reste des montants très conséquents, supérieurs à plusieurs aides internationales au développement. C'est pourquoi nous pensons qu'aujourd'hui, la diaspora et le travail qu'on peut faire avec la diaspora reste un travail qui peut être équivalent ou même supérieur au travail que le pays fait avec ses partenaires de financement.
À l'étranger, les Congolais de la diaspora se sentent-ils suffisamment soutenus par leur gouvernement?
À l'étranger, effectivement, beaucoup de membres de la diaspora se sentent pas forcément écoutés parce que, compte tenu du fait que le pays a connu des problèmes structurels pendant plusieurs années, nos ambassades n'étaient pas forcément à même d'appuyer les Congolais de l'étranger comme il se doit. Mais il faut aussi noter qu'il y a des efforts qui se font, il y a des choses qui se font. Peut-être pas à la hauteur du besoin, mais les choses qui se font existent bel et bien. Donc, je pense que c'est une occasion aussi de pouvoir relever les failles durant le forum et proposer des solutions, proposer des recommandations pour que le dialogue reste permanent entre le gouvernement, l'État congolais et sa diaspora.
Quand les Congolais de l'étranger reviennent au pays pour investir, le climat des affaires leur est-il favorable?
Quand la diaspora revient au pays, effectivement, le climat des affaires, je pense qu'il est en train de s'améliorer. On offre de plus en plus des opportunités à la fois à la diaspora qu'aux partenaires étrangers d'investir. Et je pense qu'à l'arrivée du président Félix, il y a eu déjà des allègements au niveau de la mobilité de la diaspora. Les Congolais d'origine, lorsqu'ils arrivent à l'aéroport, ils n'ont plus à se tracasser. Ils paye le visa directement à l'aéroport. Donc, je pense qu'en matière de climat des affaires, il y a des choses, il y a des améliorations. Le forum sera aussi une opportunité pour discuter d'autres améliorations que la diaspora aimerait avoir. Et on va discuter à la fois avec la diaspora, mais avec aussi les experts des différents ministères pour voir la faisabilité de ces recommandations. Et on verra quels sont les mécanismes qui peuvent être mis en place pour que ces recommandations soient mises en œuvre.
David Moudilo, merci.
Notre invité est membre de l'équipe de coordination du forum dénommé Diaspora Congolaise, acteur de développement et de lutte contre la pauvreté en RDC, forum qui s'ouvre aujourd'hui à Kinshasa. Ils s'entretenaient avec Alain Rongmouchinj. C'est la fin de ce journal, supervisé par Pele Kipela Mondo. Jean-Noël Mokondo Yogo était à la technique. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver ce journal sur notre site www.radiocapi.net.